Je suis avec Fabien Icobert et Francesca Crépé, comme je disais, qui représentent la COPAZ. Alors la COPAZ, c'est une épicerie participative.
C'est ça.
C'est correct.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette épicerie et qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette épicerie participative à Azur, qui est, je rappelle.
Alors au départ, c'est un projet tout à fait égoïste. On est arrivé à Azur avec ma compagne en 2018 et on ne trouvait pas de moyens pour consommer comme on le faisait avant, c'est-à-dire aller sur les marchés ou dans les magasins. Et il y a des marchés qui existent, il y a le marché Touston le lundi matin, à Azur le mardi, mais c'était en journée, on ne pouvait pas forcément y aller, on ne voulait pas retourner dans les supermarchés, donc on a cherché une solution qui nous convenait, et on s'est dit que si ça nous convenait à nous, peut-être que ça conviendrait à d'autres personnes. Donc on a regardé, on a cherché les AMAP, les épiceries, on a fait le tour de plusieurs solutions, et on est tombé sur le projet d'épicerie participative qu'on ne connaissait pas, qui existe depuis les années 70-75 aux États-Unis.
Oui.
Et on a trouvé ça intéressant parce qu'il y avait un côté sympa pour nous parce qu'on mangeait des bons produits, il y avait un côté chouette pour les producteurs parce qu'on bosse en direct avec les producteurs, et un côté social aussi sympa puisque c'est dans les petites épiceries comme ça, c'est les adhérents qui tiennent la boutique, donc il y a un côté lien social qui manquait dans le village aussi parce qu'il y a pas de, il y a deux restos ou trois l'été à Azur, mais il y a pas de ou plus de bars.
Il y a pas, il y a même pas de bistrot. C'est vrai que le bistrot c'est un lieu social important. Mais, quand même, sans parler de l'alcool, mais c'est vrai que c'est un lieu social important le bistrot.
Ouais, mais qui existe plus à qui existe plus à Azur.
Ah oui.
Donc on s'est dit que créer un projet qui regroupait un peu tout ça, ça avait du sens.
D'accord. Et c'est de quelle époque on parle là quand vous êtes arrivé, vous avez lancé ce projet, c'était
alors,
quelle année?
On a lancé en 2019. Fin 2019, on a fait une petite réunion publique pour expliquer le projet et le concept aux gens. On a eu une trentaine de personnes qui ont adhéré au concept. Alors pour nous, c'était un peu flou au début, donc on vendait un peu du rêve ou du vent parce qu'on ne savait pas exactement comment ça allait fonctionner.
Et oui.
Mais on a créé un petit groupe de 10 personnes, on s'est réunis pendant 6 mois, tous les lundis, pour monter le projet, comment ça allait fonctionner. On a été soutenus par d'autres épiceries qui existent au Pays Basque parce qu'ils ont un peu d'avance sur nous sur ça. Notamment la Roundcop à Cibourg, à Urugne, qui nous a accompagnés au début. Et donc on a fait des réunions pendant 6 mois pour réfléchir avec qui on voulait bosser, qu'est-ce qu'on voulait trouver comme produit dans l'épicerie, quel producteur, pourquoi on prenait un producteur plutôt qu'un autre, ou un produit plutôt qu'un autre, comment on allait fonctionner, est-ce qu'on faisait que du bénévolat, est-ce qu'on salariait quelqu'un. Donc on a fait tout ça, et au bout de 6 mois il y a le Covid qui est arrivé.
Oui, c'est que le Covid, ça a dû, comme beaucoup de choses, ça a changé pas mal la donne.
Ben, ça a changé pas mal la donne, ça a beaucoup changé pour nous dans le bon sens.
Dans le bon sens, oui.
Puisque nous, ça nous a mis un coup de pied, le coup de pied qui nous manquait en fait pour se lancer. Parce qu'on avait tout ce qu'il fallait, on avait des gens qui voulaient adhérer, donc qui voulaient consommer, on avait des producteurs qui voulaient nous vendre des produits, mais on n'avait pas de local pour faire ça. Et donc au Covid, on a eu, enfin au confinement surtout, on a eu des producteurs qui nous ont contactés pour nous dire, nous on est un peu dans la mouise, pour rester poli, parce que on fait de la vente directe, là les gens ne peuvent plus venir, donc on ne vend plus. Et les premiers qui nous ont contactés, c'était des gens qui vendaient essentiellement en collectivité. Et donc les écoles étaient fermées, tout ça, donc ils avaient plein de produits de stock sur les bras. Donc ils nous ont contactés en nous disant, est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place pour mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Donc au début, pendant 3-4 semaines, on a fait des ventes sous forme de paniers, un peu comme dans les AMAP, où les gens, les producteurs nous envoyaient la liste des produits disponibles, nous l'en transmettions aux consommateurs, ils faisaient comme un drive, ils faisaient leurs courses, les producteurs nous livraient, on préparait les cagettes, les gens venaient les chercher. Donc on a fait ça quelques temps, et quand le confinement a été levé, on a continué avec les mêmes producteurs, mais en format épicerie, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de précommande. On achetait les produits directement avec l'asso, on mettait ça dans le local du comité des fêtes qui nous avait prêté le local à cette époque-là.
Il y a un frigo, un grand frigo dedans ou pas ?
Il y avait un frigo qu'on avait trouvé chez un adhérent, un ou deux frigos, les tables du comité, c'était un peu à l'arrache au début, puis ça s'est structuré au petit à petit. Et au bout d'un moment, la mairie a vu qu'il y avait quand même un intérêt social et solidaire pour les consommateurs, pour les producteurs, pour tout le monde. Donc la mairie a mis la main à la pâte, il nous a installé des Algeco pour qu'on puisse avoir des locaux à nous. Et donc depuis le 1er janvier 2021, du coup, on est dans nos locaux à Azur.
D'accord. Et ouais, donc la mairie s'est rendue compte que ça rendait service à tout le monde, du coup, y compris à elle, ça rajoutait de l'activité sur la commune, hein, c'est sûr que s'il n'y a pas de bistrot, tout ça là.
Ça rajoute, oui et non, parce que du coup, comme c'est une épicerie participative, c'est un cercle un peu fermé.
Oui, ça fait vivre les gens, ça fait, ce qui est important, c'est quand même les citoyens.
Ouais.
Enfin, il me semble.
Oui.
Voilà. Est-ce que c'est possible, Fabien et Francesca, d'avoir une petite idée de votre trajectoire personnelle qui vous a amené ici, que ce soit à Azur ou ici dans ce studio, dans ce projet-là, dans la limite de ce que vous voulez, ce qui n'est pas confidentiel, bien sûr.
Bon, rien de confidentiel. Je suis installé avec ma compagne à Azur depuis 2018. On était de Bénès, Tyros, dans le coin avant. Quoi vous dire, je suis graphiste de profession, j'aime bien manger, c'était une grande partie du pour ça qu'on a monté ce projet.
Oui. Et bien manger et manger bien.
Ouais, enfin bien manger et manger bien. Oui, oui, oui. Et du coup, avec ce projet-là, en plus, on a découvert pas mal de choses sur l'agriculture, sur les producteurs, sur la galère dans laquelle ils sont et tout ça, et qui nous pousse à continuer ce projet, à en créer d'autres derrière aussi. Et pourquoi on est ici parce qu'on a, le projet tourne bien, mais on aimerait qu'il grossisse un peu plus, ou même qu'il fasse des petits dans les villages à côté.
Ouais, de toute façon, on va en parler dans le principe même de fonctionnement. Plus vous êtes, et plus c'est intéressant, de toute façon. Voilà. Et Francesca, un petit mot sur vous aussi, si c'est possible.
Moi, je suis une retraitée, arrivée depuis peu à Souston. Mes amis locaux participent à Copaz depuis plusieurs années, depuis que je crois même le début. Donc, ça me paraissait évident de privilégier une association, la solidarité, la qualité des produits, le prix des produits aussi, car les produits sont vendus à prix coûtant. Donner un petit peu de temps, 3 heures par mois, c'est vraiment pas grand-chose.
Non, c'est pas grand-chose.
Et ça fait plaisir.
Très bien. Alors, comment est-ce que vous avez découvert ce principe-là d'épicerie participative ? Moi, personnellement, j'ai déjà vu un ou deux reportages sur Internet, je crois, où on présentait ce principe, parce que ça se fait ailleurs aussi. Pareil, c'est... sur Internet ou lors d'un reportage, je dis tiens, ça existe ce système aussi.
Le premier truc, je crois que c'était un reportage à la télé où on s'est dit avec Sophie, on s'est dit c'est peut-être ça qui nous intéresserait le plus. Et après, du coup, on a fouillé un peu sur Internet, on a trouvé, il y a un super reportage, ça s'appelle la Slop Food Coopérative, je crois.
D'accord.
C'est qui est née en 76 à Brooklyn. C'est eux les premiers qui ont un peu initié ce mouvement. Et donc il y a un reportage d'une demi-heure qui explique le fonctionnement et tout ça. L'épicerie chez eux existe encore, ils sont plusieurs milliers d'adhérents.
Ah ouais, enfin, c'est un gros truc là.
C'est presque
un supermarché coopératif
C'est un hypermarché coopératif.
Ah ouais, mais voilà, là c'est.
Et après, du coup, on a regardé. Donc il y en a plein déjà qui existent en France. Il y a la Louve à Paris qui est la plus grande. Il y en a dans toutes les grandes villes. Il y a Super Quinquin. Enfin, il y en a plein. Et après, on a fouillé un peu dans le coin. Les premières sont. Au Pays Basque, c'était Urugne, je crois, la première, ou Ochocop à Bayonne, qui existe depuis, qui avait déjà 3-4 ans d'ancienneté quand on a lancé le projet. Et du coup, on a été les rencontrer pour qu'ils nous expliquent vraiment le fonctionnement, parce que c'était un peu flou pour nous au début. Et voilà, après, on s'est lancé comme ça.
Alors je suppose que la partie participative vous a séduite aussi, en dehors de la partie, on va dire, épicerie elle-même, le fait de travailler dans une association en coopérative, etc., ça fait partie intégrante du projet, c'est pas juste un moyen, c'est aussi, ça fait partie du projet, je pense.
Ça fait partie du projet. Nous, quand on est arrivé à Azur, on a tous nos amis qui sont dans le coin et tout ça, parce qu'on était déjà ici. Mais à Azur, c'est vrai qu'on ne connaissait pas grand monde. Du coup, on a rencontré une grande partie du village avec ce projet. Et ensuite, oui, il y a tout le côté... alors, on va faire les courses, on mange bien et tout ça, c'est cool. Mais en plus, quand on va faire les courses, on voit des gens qui sont sympas, on va faire les courses avec plaisir.
Oui.
Tout le monde a le sourire, donc il y a un côté social et participatif qui est chouette.
Ouais. Alors il n'y a pas de concurrence sur Azur d'épicerie normale, enfin classique on va dire, d'établissements qui offrent les mêmes services.
Il y a une épicerie estivale au camping qui est ouverte pendant l'été.
Pas les mêmes tarifs.
C'est pas les mêmes tarifs, c'est pas les mêmes produits non plus. Ensuite il y a une boulangerie, mais après il n'y a pas de commerce de bouche, au commerce alimentaire il n'y a rien quoi. Et après il y a les bars, ça ferme par resto, mais il n'y a pas de commerce de bouche. Hein.
Ben, c'est le moment de faire la première pause et on va continuer à parler de votre organisation en suivant. A tout de suite.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous voilà de retour avec nos invités. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement. Voilà, rentrer un petit peu dans le détail, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, c'est une épicerie, donc ça, vous vendez des choses.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous vendez d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette épicerie?
Alors, l'idée de l'épicerie, c'est de bien manger et de soutenir les producteurs. Quand on a créé l'épicerie, en fait, chaque épicerie participative a un fonctionnement différent. Et dans chaque épicerie, on va trouver des produits différents parce que chaque épicerie porte des valeurs différentes. Mmh. Y a des épiceries qui font que du bio, d'autres qui font que du local, d'autres qui font tout. Nous, on s'est dit, on veut des produits qualitatifs. Donc, on a fait une charte de produits où on veut des produits sans OGM, sans intrants chimiques et tout ça. On veut des produits bio ou locaux. On privilégie pas l'un ou l'autre. Enfin, on a une équipe produit qui gère ça. Mmh. Et on s'est dit aussi, on veut que quand on vient dans l'épicerie, on puisse acheter 80% des produits de la consommation quotidienne. Mmh. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire, pour nous, d'autres épiceries le font, mais pour nous, on s'est dit à Azure, ça sert à rien de faire une épicerie où on vend que des produits bio et locaux, mais il faut quand même aller à Leclerc ou Intermarché derrière pour acheter des bananes ou des avocats parce qu'on veut ça, ou alors autre chose parce qu'on ne les trouve pas dans l'épicerie. Mmh. Donc, en premier, on va privilégier les producteurs en direct. Donc tout ce qu'on peut trouver par les producteurs, on les référence dans l'épicerie. Mmh. Donc on va trouver de la viande, du pain, des produits laitiers, des fruits, des légumes, tout ce qu'il y a dans une épicerie.
C'est la saison de l'asperge qui commence aussi.
Ouais, ça
les
va
fraises,
arriver.
Bientôt.
Fraises et asperges, ça va arriver dans pas longtemps. Fraises et asperges qui nous viennent de Souston d'ailleurs. Ensuite, on va avoir aussi un rayon d'hygiène, par exemple, avec des savons, des dentifrices, des brosses à dents, enfin tout,
de base,
tout ce qu'on peut trouver.
Besoin,
Et tout ce qu'on ne trouve pas avec des producteurs, on complète avec des grossistes, parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir faire le maximum de courses. Donc, on n'a pas de producteurs de bananes, par exemple, ici.
Mmh. Non, pas trop. On a des cacahuètes, mais pas
des
bananes.
Non, on a des cacahuètes. Il y a des bananes qui sont... Il y a des projets au Pays Basque, là, ils ont trouvé des variétés qui sont capables de pousser assez vite pour être produits en été, donc c'est un projet. Mais pour l'instant, on n'a pas ça, donc on s'est dit, plutôt que de devoir aller à Souston, à Leclerc, Intermarché ou autre, pour acheter des bananes, parce qu'on a envie de manger des bananes, et de devoir prendre des bananes du Pérou, de Guyane, parce qu'on veut des bananes françaises, mais qui ont traversé l'Atlantique, nous, on a bossé avec un grossiste, qui est à Saint-Jour, donc qui n'est pas très loin, et on peut choisir du coup les bananes, d'où elles viennent, donc du coup, on prend des bananes qui viennent des Canaries, donc qui viennent par bateau, qui viennent par l'avion, tout ça. Donc c'est moins sympa que si on ne mangeait pas de bananes, mais si on veut quand même manger de la banane, on a cette possibilité-là. Quoi. Mmh. C'est un exemple, mais...
Mais c'est intéressant, oui.
Donc ça, c'est pour les produits, et sur le fonctionnement, du coup, pour pouvoir consommer dans l'épicerie, il faut être adhérent. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour être adhérent, en fait, faut remplir trois critères. Le premier critère, c'est un droit d'entrée qui est actuellement à 100 €. C'est un prêt que vous faites à l'asso. C'est 100 €, on vous les rend quand vous partez de l'asso. C'est juste pour avoir un petit fonds de roulement sur le compte en banque pour pouvoir payer les producteurs rapidement et tout ça. Le deuxième critère, c'est une cotisation mensuelle pour payer les charges, puisque comme on a une asso, il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de but lucratif derrière. Comme on revend en fait les produits qu'on achète à prix coûtant, c'est-à-dire qu'on achète une salade 80 centimes, on la revend 80 centimes, on ne fait pas de marge dessus. Il y a quand même un loyer à payer, de l'électricité, un frigo à acheter de temps en temps, des outils et tout ça. Donc là, on a une cotisation mensuelle qui est entre 5 et 15 euros. Les adhérents donnent ce qu'ils veulent, entre 5 et 15, en fonction de leur pouvoir d'achat, en fonction du volume d'achat qu'ils font.
D'accord.
En moyenne, c'est 7-8 euros. Et du coup, cette cotisation permet de payer les charges mensuelles. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et troisième critère, il faut bosser 3 heures par mois. 3 heures minimum. Il y en a qui en font bien plus. On les remercie, mais le pacte, c'est 3 heures par mois. Parce que comme il n'y a pas de salarié dans l'épicerie, il faut quand même faire les réceptions, ouvrir la boutique, tenir la caisse, mettre en rayon et tout ça.
Oui, voilà.
Et ça, c'est tous les adhérents qui font ce job-là.
Alors, quel type de poste existe dans une épicerie? Quel type de travail font les Mais les membres, les... Hein. Qu'est-ce qu'ils sont les... Parce que bon, je sais, on ne sait pas forcément. Il y a quelqu'un qui s'occupe des achats, de la compta, que sais-je.
C'est tout divisé par poste, comme, ouais. Comme une entreprise en fait. Il y a une équipe qui s'occupe de la compta, une équipe qui s'occupe des achats, une équipe qui s'occupe de faire l'inventaire, une équipe épicier, donc c'est le plus gros poste, qui sont là pour mettre en rayon, tenir l'épicerie, faire la caisse. Une équipe qui fait les réceptions le matin avant d'ouvrir l'épicerie, une équipe qui fait le ménage, une équipe qui fait... la communication, tous les postes d'une entreprise en fait sont divisés en fonction du nombre d'adhérents.
D'accord, bah c'est encore une fois, comme je dis quand je reçois les associations, encore un exemple de démocratie participative.
Exactement.
Comme toujours, comme quoi c'est possible, même si ça vient pas d'en haut, ça vient quand même, mais d'en bas.
Ouais.
Bah, c'est le moment de faire notre deuxième pause. On va écouter mon excellentissime collègue Nicolas de l'antenne de Dax, qui nous a concocté son flash info local. Comme tous les jours, on se retrouve à très vite. Voilà, c'était Alain Bachung avec Ma Petite Entreprise. Bon, je crois que c'était une petite chanson de circonstance. alors, de quoi pouvons-nous parler ? On va parler, oui, des producteurs, parce que c'est quand même vos principaux... partenaire dans cette histoire. Alors moi je me pose des questions de néophyte. Quel est votre comment ça se passe les achats, par exemple? Moi j'imagine un supermarché, une centrale d'achat monstrueuse, les volumes, les tarifs, etc. Comment ça fonctionne en direct avec les producteurs? Comment ça se passe, les tarifs, etc.?
Alors les tarifs, en principe c'est qu'on négocie pas les prix, peu importe le volume, le conditionnement, quoi que ce soit. C'est, l'idée de l'épicerie c'est nous de bien manger de notre côté, et de côté des producteurs c'est de les faire vivre dignement. Donc l'idée c'est de pas négocier les prix, c'est eux qui donnent leur prix, leurs conditions, s'il y a des frais de port ou pas. Le conditionnement, c'est eux qui nous dictent la chose et nous on s'adapte. On a quelque chose qui est très facile à faire dans l'épicerie, c'est une étude de marché. On est à peu près 80 familles, donc ça fait 250-300 personnes à nourrir toutes les semaines.
Oui, on peut bien prévoir les choses.
On peut bien prévoir les choses, et c'est surtout quand on veut tester un produit, on le met en rayon. Si au bout d'une semaine il n'est pas parti, c'est que le produit n'a pas sa place dans l'épicerie, soit parce que c'est pas le bon public, soit parce que le prix est trop élevé, ou parce que le conditionnement n'est pas bon. Enfin, il y a plein de solutions, plein de problèmes différents. Mais avec les producteurs, la politique, c'est pas négocier les prix pour qu'on puisse continuer à bosser avec eux dans 10 ans encore, parce qu'ils seront encore là et qu'ils seront pas... qu'ils soient encore là, quoi. C'est ça l'idée.
D'accord. Alors, pour avoir une idée, le prix du panier moyen, mais alors du coup, si on devait comparer avec des courses entre guillemets traditionnelles, est-ce que ça revient plus cher ? Bon, vous prenez pas de marge dessus, ce qui est déjà pas mal.
Alors,
ça c'est pas mal, mais le prix d'achat...
Si on compare à produits équivalents, puisqu'il faut comparer produits équivalents, on sera forcément moins cher, puisque on n'a pas de charge. Donc là où un supermarché fait 40% de marge pour payer ses employés, c'est l'électricité, le local et tout ça, nous on n'a pas ça à faire, donc forcément on est moins cher. On achète à peu près au même prix qu'une centrale d'achat, puisque les producteurs avec qui on bosse en général bossent pas avec des grandes surfaces. Donc le prix d'achat pour nous c'est pas réellement là où se fait la différence. Mais comme on fait pas de marge, forcément le produit coûte moins cher, quoi.
Oui. Bon, là, en plus là c'est bien, au moins vous n'avez pas posé la question de savoir comment boycotter les produits américains, là au moins
non,
là au moins c'est clair.
non, là c'est d'actualité, mais on a même pas la question à se poser chez nous.
Ouais. Alors vous êtes aussi venu, en parlant d'actualité, vous avez une actualité, voilà, c'est important quand même, parce que effectivement, pour que votre système qui fonctionne tel qu'il est, c'est bien qu'il s'agrandisse, parce que le principe déjà est formidable, forcément, et donc ça fait partie de vos objectifs, et bien évidemment d'avoir plus d'adhérents, etc., même que ça se propage, parce que c'est une manière de fonctionner qui est quand même vraiment sympa, c'est plus la même manière de consommer, celle après laquelle on court toujours. Donc vous avez une actualité, vous allez nous en parler.
Bien sûr, on a une actualité qui sera le 29 mars, c'est la troisième année où on fait la fête du printemps. La fête du printemps qui est un peu en train de se transformer en burger party. La première année, l'idée c'était de fêter le printemps, les légumes, l'arrivée du potager et tout ça. On avait fait un petit repas, des burgers 100% Copaz avec le pain de pain d'ici, le steak du producteur de Pierre, le fromage de brebis, la salade de chez Romain à Souston.
Vous me donnez faim là, alors qu'il est là.
Mais c'est l'heure. Hein.
Ouais, c'est l'heure.
Et au final, mais les burgers ont été tellement sollicités que c'est les burgers qui ont pris un peu le dessus sur le côté troc de plantes.
D'accord.
Et donc là, c'est la troisième année où on fait... On fait la visite de l'épicerie des portes ouvertes le samedi matin à partir de 10h. En même temps, on a un petit marché de producteurs, donc les producteurs à l'épicerie, il y en a quelques-uns qui seront là pour présenter, vendre leurs produits. En même temps, on aura une petite buvette pour le café et tout ça à 10h, qui se transformera certainement en apéritif à partir de midi. On aura un petit apéro gratuit. Et ensuite, il y aura la buvette, on a un petit concert, on a les burgers. Mm-hmm. Le concert sera le groupe des Giggles de Dax, les deux frangins. Mm-hmm. On a les burgers frites à 10 euros. Mm-hmm. On a de quoi passer une bonne journée.
D'accord. Bon, mais non, le but, hein, en plus, c'est une opération de portes ouvertes, c'est essayer de faire rentrer des gens dans le système. Hein.
Exactement.
Quand vous expliquez comment ça fonctionne avec les adhérents, etc., c'est évident que plus vous êtes, et plus c'est intéressant pour tout le monde.
Mais c'est intéressant. Alors, il y a un côté financier, parce que du coup, nous, on sait à peu près les charges par mois. Donc, pour calculer la cotisation mensuelle, ben on fait le total de charges divisé par le nombre d'adhérents. On sait à peu près combien il nous faut. Ouais. Donc plus on est nombreux, moins la cotisation coûte cher. Et c'est surtout intéressant parce que plus on est nombreux, plus on peut ouvrir le créneau d'ouverture de l'épicerie.
Ouais.
Et donc là, actuellement, on est ouvert les mardis après-midi, jeudi après-midi, fin de 15h à 19h, et le samedi matin. Plus on sera nombreux et plus on aura de créneaux d'ouverture, donc plus ça sera facile de venir faire les courses, tout ça, quoi. Et plus c'est facile aussi pour la gestion parce que si on arrive à être ouvert tous les jours, faire un roulement sur les fruits et les légumes, c'est plus simple que quand c'est ouvert trois fois par semaine, par exemple.
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, je fais une question un peu naïve, mais alors, quel est l'inconvénient ? C'est quoi la difficulté, en fait ? C'est quoi votre difficulté principale que vous rencontrez dans votre fonctionnement au quotidien ? Ça, c'est quoi
Je sais pas.
Ouais.
Non, je sais pas trop. Une fois que les gens ont essayé, la contrainte. En fait, les gens qui sont partis de l'assaut, il y en a eu beaucoup. C'était après Covid, pour des raisons de mutation, de changement de vue comme ça. Les quelques-uns qui sont restés dans le coin, c'est surtout les 3 heures en fait. Ils n'arrivaient pas à trouver 3 heures d'affilée pour venir bosser. Donc là, on a trouvé des solutions. Au lieu de faire 3 heures d'affilée, on propose de faire 2 fois 1h30 pour que ce soit un peu plus tard dans la soirée, pour que les gens qui finissent de bosser à 18h, 19h puissent quand même venir bosser. On a aussi des boulots où il n'y a pas d'horaire fixe. Par exemple, l'équipe ménage, ils viennent en dehors des horaires d'ouverture, ils viennent quand ils veulent, donc ils peuvent venir le week-end, le soir et tout ça. Donc on essaie de trouver des solutions. De toute façon, l'idée, c'est de contenter tout le monde. Donc on essaie de trouver des solutions pour que ça s'adapte au plus de gens possible.
D'accord. Mais qui c'est qui fait le planning ?
C'est l'équipe planning.
Ouais. Parce qu'il y a quand même un planning à faire, là. 80 personnes.
Dans les jobs, justement, il y a 2 personnes qui font les ressources humaines. Mm-hmm. Donc, ils font les plannings, les remplacements. Alors, il n'y a pas d'arrêt maladie et tout ça, mais qui s'occupent de remplacer quand quelqu'un ne peut pas venir et tout ça. Ce poste-là, par exemple, c'est quelque chose qui se fait à distance. Donc, en fait, elles font 3 heures par mois, mais personne ne contrôle, on n'est pas là pour ça, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, elles font leur job depuis chez elles, et ça s'adapte très bien à leur quotidien, parce que ces 2 personnes ne pouvaient pas venir 3 heures d'affilée. Donc, on a trouvé des jobs qui correspondaient à leurs critères, quoi.
Ah, bien sûr. Et vous avez un système de communication pour savoir comment vous fonctionnez. Vous avez une messagerie, enfin, c'est une question de technique.
Ouais, on a plein de groupes sur Signal. Ouais. Un groupe pour les épiciers, pour les coursiers, pour chaque poste.
C'est bien organisé. Général.
Ouais, mais là, ça fait 5 ans. Alors, au début, c'était un peu chaotique, et puis ça s'est mis en place petit à petit. Là, maintenant, ça correspond. Ça commence à être bien carré.
D'accord, très bien. Ça va être le moment de faire notre dernière pause. On va attaquer la dernière partie d'émission. Comme je vous l'avais dit, ça va des fois très vite. Hein.
Ouais.
Quand on discute, le temps passe très vite. On se retrouve tout de suite après cette pause. Très vite. Et voilà, Fabien et Francesca, c'est la dernière partie de cette émission. Il y a encore des choses à récupérer, dont il faut parler. Bon, on est obligé de rappeler évidemment cet événement important. C'est le 29 mars.
Ouais. Le 29 mars.
Alors, se situe où cette épicerie ?
Alors, l'épicerie, elle est à côté des ateliers municipaux, derrière le cimetière, là où il y a quelques assos, il y a les ateliers municipaux, il y a le local de la chasse, des archers, du comité des fêtes.
D'accord.
Et là, pour l'occasion, pour le 29, on sera le matin à l'épicerie pour les portes ouvertes et tout ça, et après on se déplace à la salle François Mitterrand, la salle municipale, comme ça on a une solution de repli s'il pleut,
d'accord, oui.
Pour pouvoir manger dedans et tout ça. S'il fait beau, on fera ça dehors, c'est quand même plus sympa, mais s'il fait pas très beau ou s'il pleut, on a cette solution de se mettre dedans pour quand même pouvoir assurer un moment sympa.
C'est la première édition ou déjà fait?
Dans la troisième.
La troisième, ouais. D'accord.
Donc, voilà. Les deux premières, on a fait devant l'épicerie, on a eu du beau temps, on a eu de la chance. On s'est dit jamais 203, mais bon.
Il y a eu du monde un petit peu?
Ouais, ça fait on a toujours été complet. On a fait 100 burgers la première année, 150. Là, on en avait prévu 200.
D'accord.
Mais vu les réservations qu'il y a, peut-être qu'on va augmenter un peu parce que ça commence déjà à se remplir. Donc peut-être qu'on va augmenter un peu, mais ça serait bien de réserver si vous voulez venir manger un burger et être sûr d'en avoir.
Voilà.
Faut réserver. Alors j'ai plus le numéro en tête parce que c'est plus le mien.
Oui. Enfin, de toute façon, on va parler de votre site internet et la page Facebook. C'est un moyen de vous contacter et de retrouver les informations à votre sujet.
Sur la page Facebook, c'est le plus simple. C'est Copaz ou Copaz 40. Enfin, vous allez voir. De toute façon, il n'y en a pas 36.
Oui. De toute façon, il y aura le lien dans le podcast. Normalement, en général, on essaie de mettre les liens des invités. C'est plus sympa.
Parfait.
Et voilà, donc est-ce que vous avez vu un impact sur les cotisations, les entrées dans l'association, le fait d'avoir fait...
Chaque année, on récupère pas mal d'adhérents suite à cette journée-là. On fait en fait tous les mois, on fait le deuxième samedi du mois, on fait les portes ouvertes. Mais on n'est pas très très bon en communication comme tous les assos, donc ça ne s'est pas assez. Par contre, cette journée-là, on met un accent dessus, donc on a quand même pas mal de monde qui vient. C'est une journée super parce que on peut échanger avec les adhérents, avec les producteurs qui sont là. On voit de suite le fonctionnement, on voit les produits, on peut visiter l'épicerie, faire des achats sans être adhérent justement aux portes ouvertes pour tester les produits. Et en général, on a pas mal de personnes qui reviennent le mois d'après pour s'inscrire. Et
oui, on en parlait un petit peu hors antenne, oui, que c'est un peu, pas une ambition, bon, une envie. Vous avez aussi que c'est que ce modèle-là, il se développe. Parce que c'est appelé à se développer, enfin, ça serait bien.
Ça existe depuis longtemps, ça se démocratise de plus en plus. Au Pays Basque, il y a presque une dizaine d'épiceries. Dans les Landes, on est deux ou trois. Nous, je crois qu'on était les premiers. On a aidé Benescope à Benesmarine, qui s'est créé depuis un ou deux ans. On a aidé des projets à Saubus, à Vielle-Saint-Giron, vers La Bouyre aussi. Enfin, il y a quelques projets, voilà. Nous, l'idée, c'est de partager notre savoir-faire et notre là où on s'est planté, que les gens ne se plantent pas derrière, parce que ça n'a rien.
Et oui, voilà. Bénéficiez de votre expérience.
Exactement.
D'accord.
Et l'idée, c'est aussi de pouvoir mutualiser aussi nos connaissances des producteurs, des produits, tout ça. On est en train de créer un petit groupe intercoopératif avec les autres épiceries du Pays Basque et de Bénès. Il y a d'autres projets, d'essayer de mutualiser toutes les connaissances sur les AMAP, sur les épiceries, en lien aussi avec les producteurs. Donc il y a un réseau qui est en train de se créer autour de ça pour essayer de que ce soit le plus simple et le plus efficace possible. Quoi.
Très bien. Ça va être le moment de se séparer. Hein. Ça va très vite. Hein.
Merci
beaucoup Fabien et Francesca d'être venus nous avoir partagé ce projet qui, ma foi, donne envie. Ça semble tellement évident en fait, que les choses devraient fonctionner comme ça. C'est facile à dire, hein, mais bon, voilà. Donc, allez, 29, allez à Azur, allez tester. Vous allez voir, ils sont sympas. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose?
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Pour ma part, je vous laisse en musique. C'est le week-end, hein, c'est super. Mais je vous rappelle un petit détail. Nous sommes en partenaire avec LMA, Land Music Amplifié, et nous vous faisons gagner deux places pour le concert de Billy qui est une artiste assez connue. La famille Chédid, hein, c'est voilà, toujours Billy Chédid. Enfin, elle s'appelle Billy, mais donc c'est le 4 avril à la Max, Pôle Sud, bien sûr, à Saint-Vincent-Tyros. Il faut que pour ce faire, il faut que vous alliez sur la page Facebook de Souvenir FM Soustan, vous verrez, il y a un post que j'ai fait, et vous verrez dessus, il suffit de liker et de citer un ami, on fera un tirage au sort pour les gagnants, pour les deux places. Attention, la date limite, c'est le 27 mars, en attendant. À très vite sur Souvenir FM, à Dichatz.